Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Pizarro et ses hommes victorieux d'Atahualpa et de ses Indiens. Reste maintenant à s'emparer de leurs trésors. Dans la ville de Cajamarca, les Espagnols trouvent tant d'or que Pizarro lui-même est abasourdi. À elle seule, la vaisselle d'or du monarque est évaluée à 60 000 pistoles, une somme colossale pour l'époque. On enferme Atahualpa dans une maison d'une trentaine de mètres carrés. À cet instant, Pizarro sait qu'il s'est fait maître de l'un des empires les plus puissants du Nouveau Monde. Sa soif de gloire est étanchée. Reste l'or, dont il faut à présent s'emparer avant que d'autres aventuriers n'apprennent qu'il s'en trouve dans ce pays autant que de sable dans la mer. Comme l'exigent les lois de la guerre en Occident, Pizarro a laissé à Atahualpa sa suite et le confort qui sied à un monarque. Cependant, Atahualpa a compris que l'appât de l'or peut avoir raison de tout chez ses ennemis. Il propose un marché à Pizarro. En échange de sa liberté, il s'engage à faire remplir d'or la pièce où il est retenu captif jusqu'à hauteur de sa main, une fois le bras tendu vers le plafond. Pizarro accepte. On fait donc tirer un trait à partir de l'endroit désigné par la main d'Atahualpa. Il a 2 mois pour faire remplir la pièce jusqu'au niveau que lui-même a fixé. Les jours passent. Les Indiens envoyés par l'Inca reviennent chaque jour avec de l'or à profusion. La salle se remplit peu à peu, mais un peu trop lentement au goût des Espagnols qui se demandent si Atahualpa ne cherche pas simplement à gagner du temps. On l'interroge. « Mais non, répond-il, ne vous inquiétez pas, le plus gros du trésor se trouve dans la capitale, à Cusco, à près de 200 lieues, c'est-à-dire 300 kilomètres. Il est normal que cela prenne du temps. » C'est à ce moment que va se nouer l'une des énigmes les plus épaisses de l'histoire. Car alors qu'Atahualpa, prisonnier des Espagnols, réfléchit vraisemblablement aux moyens de leur échapper, son frère Huascar, qui, rappelons-le, est l'héritier légitime de l'Empire Inca, fait route vers Cajamarca depuis Cusco. Quelques soldats, envoyés par Pizarro, qui se rendaient alors dans la capitale pour vérifier les dires d'Atahualpa, tombent nez à nez avec Huascar. Ce dernier apprend que son frère est prisonnier. Il s'émeut et se confie aux Espagnols. « Oui, mon frère est un félon. Oui, il veut usurper le titre de roi. Non, il n'est pas en mesure de vous livrer tout l'or de l'Empire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à Cusco, il faudrait dégarnir le temple du soleil de ses portes de bois couvertes d'or et de ses toitures d'argent. Alors que lui, Huascar, est dépositaire par décision de son défunt père de toutes les richesses de l'Empire. » Que ses richesses se trouvent cachées en un lieu connu de lui seul et qu'il ne révélera qu'à Pizarro en personne. Ses richesses, ce sont des montagnes d'or et d'émeraudes. Les soldats de Pizarro promettent à Huascar qu'il sera accueilli en ami à Cajamarca et ils continuent leur route vers Cusco. Erreur fatale, car entre-temps des espions d'Atahualpa ont rapporté à leur maître la rencontre entre son frère et les hommes de Pizarro. Il n'en faut pas plus aux prisonniers pour ordonner qu'on fasse tuer le plus vite possible ce frère devenu décidément trop gênant. Le sinistre projet réussit. Recevant le coup fatal des sbires de son frère, Huascar adressa, dit-on, une dernière prière au ciel.
« J'ai été peu de temps seigneur et roi de ce pays. » Mais mon traître de frère, par les ordres duquel je meurs, bien que je sois son légitime seigneur, ne le sera pas plus longtemps que moi. »
Pizarro, qui ignore encore ce crime, a pour l'heure tout lieu de voir confirmer ses pressentiments. Un ancien ami devenu rival, Almagro, a appris qu'un fabuleux trésor se trouvait entre les mains de Pizarro. Il se rend avec ses hommes à Cajamarca et réclame la moitié du trésor. Après tout, il a en son temps fait partie des expéditions commandées par Pizarro. Il a un droit sur les richesses du pays. Tandis que ses hommes découvrent, sidérés, cette salle déjà remplie d'or sur plus d'un mètre, où est encore retenu l'Inca Atahualpa, Almagro obtient sans difficulté ce qu'il exige comme un droit. Pizarro lui abandonne volontiers leur part. Il fait répartir équitablement les richesses accumulées depuis des mois. Bien sûr, on met de côté la part du roi. Chaque soldat, qu'il soit de Pizarro ou d'Almagro, reçoit une belle somme.
« Ne vous inquiétez pas !»
lance Pizarro à Almagro.
« Ces sommes ne représentent que le cinquième de ce qu'Atahualpa nous a promis. »
Toutes ces monnaies anciennes ne nous parlent guère, bien sûr, mais sachez que l'on estime que le fabuleux trésor d'Atahualpa devait s'élever à 8 milliards d'euros. Une fois réglée cette formalité qui confirmait une fois encore son mépris pour l'argent, Pizarro décide de s'embarquer pour l'Espagne afin de rendre à César ce qui est à César, à savoir les 20% du trésor dû à Charles Quint selon la loi. Atahualpa, apprenant ce départ, sait que son heure est venue. Il s'en ouvre à celui qui, malgré sa captivité, est devenu son ami. Une fois parti, il sait que ceux qui l'appellent « gros ventre » et « le borgne » vont le mettre à mort. Par ses surnoms, il désigne Almagro, qui a jadis perdu un œil lors d'un combat, et le trésorier de la couronne, que ses marches forcées dans les chemins escarpés des Andes n'ont pas réussi à faire maigrir. Pizarro parti, Atahualpa est condamné à mort. Il se défend, arguant que s'il est prisonnier, c'est qu'il le veut bien, que rien ici-bas ne se fait sans sa volonté.
« Il faut que vous soyez bien mal informé de l'autorité avec laquelle je commande à tous mes sujets. » Puisque, pour ainsi dire, ni les oiseaux du ciel n'oseraient voler, ni même les feuilles des arbres se mouvoir dans ce pays, si je n'y donne mon consentement. »
Avant qu'Atahualpa ne soit exécuté, le jésuite Vincent de Valverde lui donne le baptême. Avoir été baptisé lui évite le bûcher. Le dernier des Incas est condamné à l'étranglement. À l'instant d'expirer, à genoux, dans l'or et les émeraudes que l'on n'a pas achevé de ramasser, il prononce une dernière fois le nom de Pizarro. L'Empire Inca n'est plus. Les Espagnols, qu'attirait la soif d'aventure, ont depuis longtemps regagné l'Espagne. Seuls sont restés ceux qu'agite la fièvre de l'or. À la mort d'Atahualpa, les conquistadors se livrent à une guerre fratricide. Tous savent qu'un trésor fabuleux se trouve quelque part, enterré dans le sol du pays, mais où ? Un capitaine de Cortés, un certain Alvarado, depuis le Mexique, a eu vent de ce magot à déterrer. Il décide de gagner Cusco, qui est au sud du pays, par Quito, qui est au nord, après avoir débarqué à l'altitude de cette ville. Entreprise insensée, traverser 300 km de montagne par 3 à 4 000 mètres d'altitude dans un accoutrement fait pour des températures de 30 degrés. Rapidement, outre le mal d'altitude qui cause vertiges et nausées incessantes, la faim et le froid déciment la colonne. Pour les malheureux, attirés ici par l'appât de l'or, chaque journée de marche est un nouveau supplice. Au vent glacial qui tétanise les membres, succèdent de mystérieuses pluies de cendres chaudes. Les brûlures remplacent les gelures, tandis que les tempêtes de neige alternent avec l'orage. Dans les vallées, la végétation est si épaisse qu'il faut se frayer un passage au sabre. Certains ont emmené femmes et enfants dans cette folle expédition. Un capitaine, qui était avec sa femme et ses deux petites filles, décide de rester avec elles quand il est évident qu'elles ne peuvent plus avancer d'un pas. Tous sont abandonnés à la mort blanche, à 4000 mètres par 20 degrés en dessous de zéro. La colonne finit tout de même par atteindre son but, mais sur 200 soldats, 60 sont morts victime des neiges éternelles. Dès 1540, la soif de l'or attire les aventuriers de tous les pays. On interroge les anciens conquistadors, on torture les Indiens qui auraient pu être mis au courant du secret de Huascar. On massacre les habitants des villages qui ne veulent pas coopérer sous prétexte qu'ils refusent le baptême. La population des Incas en quelques années est réduite au dixième. Il faudra attendre 2 siècles pour qu'un Espagnol qui porte comme le jésuite qui accompagnait Pizarro le nom de Valverde prétende avoir trouvé le trésor et consigne sur un carnet le chemin à suivre pour le trouver. Ce carnet, dont il existe une copie à Madrid, est une véritable énigme dans l'énigme. Selon ce carnet, il faut d'abord suivre un chemin qui passe par une ferme, appelée Ferme de la Moya, puis demander à voir une montagne nommée Cerro Guapa. À partir de là, le voyageur est censé repérer 3 montagnes identiques disposées en forme de triangle. La suite de la description laisse entrevoir un véritable labyrinthe au milieu du massif montagneux.
Après avoir parcouru un peu la forêt, on vous a demandé de passer la nuit dans une hutte ou les restes d'une hutte que vous deviez trouver à cet endroit. Après y avoir passé la nuit, continue ton chemin à travers la forêt dans la même direction jusqu'à ce que tu atteignes un autre ravin profond et sec. Après avoir atteint le ravin comme indiqué, il vous a alors été demandé de jeter un pont sur celui-ci et de le franchir lentement et prudemment, car le ravin sera très profond.
Les amateurs des aventures de Tintin ne manqueront pas de remarquer les frappantes similitudes avec le plan du Temple du Soleil. Il semble que Hergé ait suivi de très près les indications de Valverde pour écrire son album. Bien avant Hergé, au XIXe siècle, certains aventuriers se sont lancés dans la recherche du trésor perdu des Incas en suivant ce même carnet de Valverde. Ce dernier se terminait par une indication des plus mystérieuses sous forme de dessin. Il s'agissait pour l'auteur d'inviter ceux que tentait l'aventure à suivre un chemin représenté par une sorte de ligne enroulée en spirale. Qu'est-ce que cela pouvait donc bien signifier? Au milieu du XIXe siècle, 2 aventuriers, Blake et Chapman, décident de suivre la mystérieuse piste. Selon les témoignages, ils trouvent une grande quantité d'or cachée dans une grotte. Malheureusement, l'un des deux meurt d'une pneumonie sur le chemin du retour. Son compagnon parvient à dissimuler l'or, puis gagne le village le plus proche. On ne sait rien de plus sur son compte. Mais le plus étonnant, c'est que personne n'est en mesure de prouver que ces 2 Anglais ont vraiment trouvé le trésor. Mieux que ça, il n'existe aucune trace de leur existence, ni dans les archives, ni même dans les registres municipaux de leurs villes respectives. Un moine jésuite a lui aussi tenté de retrouver le trésor. Il s'est perdu dans la montagne et, saisi de vertige, a été précipité dans l'abîme. À l'heure actuelle, tout semble laisser penser que si trésor il y a, il ne peut se trouver que dans l'un des grands sanctuaires incas que compte l'Amérique latine. Au Machu Picchu, au lieu du tourisme, on a pu identifier derrière les murailles de pierre admirablement jointes qui ceinturent la citadelle des cavités qui pourraient bien abriter quelques trésors. Hélas, comme pour les pyramides d'Égypte, il est impossible d'envisager une exploration physique de ces espaces. L'époque où l'on pouvait détruire un temple pour y voler ses richesses est révolue, et c'est fort heureux. Les Incas ont disparu, emportant avec eux un secret qui nourrit encore l'imagination de nombreux explorateurs. Heureusement, tous ne sont pas frappés par la fièvre de l'or. À Kuntur-Huasi, au cœur des Andes péruviennes, une mission japonaise a trouvé dans une sépulture des parures d'or qui, à l'heure actuelle, sont devenues propriété exclusive du village où elles ont été découvertes. L'argent collecté lors de plusieurs expositions a permis de donner à ce village un rayonnement qui fait la prospérité de tous ses habitants et leur fierté. Tous là-bas sont des Indiens Quechua, descendants directs des Incas. La plupart ne connaissaient pas leur propre histoire avant cette découverte. Le trésor des Incas, s'il existe, serait alors une belle occasion de rendre à un peuple sa culture et ainsi de l'enrichir deux fois. C'est la fin de ce double épisode consacré à Pizarro et au trésor des Incas. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été coécrit avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.